Épilogue. Après 2001. Le roman 2001, l'Odyssée de l'espace, fut écrit entre 1964 et 1968 et parut en juillet 1968, peu après la sortie du film. Comme je l'ai raconté dans The Lost Worlds of 2001, les deux projets furent conduits simultanément, non sans qu'il y ait des influences réciproques. C'est ainsi qu'il m'est arrivé souvent, singulière expérience, de remanier le manuscrit après avoir vu des rushs tirés d'une version antérieure de l'histoire. C'est une façon stimulante d'écrire un roman, mais un rien onéreuse. Le résultat est qu'il existe un parallélisme beaucoup plus grand entre le livre et le film que ce n'est d'ordinaire le cas, mais il y a aussi des différences significatives. Dans le roman, le navire spatial Explorateur 1 a pour destination Jappe, la plus étrange des nombreuses lunes de Saturne. Le système de Saturne est atteint via Jupiter. L'Explorateur 1 passe près de la planète géante et exploite son énorme champ gravitationnel pour en tirer un effet de fronde et en profiter pour accélérer au cours de la seconde partie de son voyage. Cette même manœuvre fut exécutée par les sondes voyageurs en 1979, quand elles accomplirent la première reconnaissance détaillée des planètes géantes. Dans le film, toutefois, Stanley Kubrick évita judicieusement toute confusion possible en situant la troisième rencontre entre l'homme et le monolithe dans la région des satellites de Jupiter. Saturne disparut entièrement du scénario, bien que Douglas Trumbull mit plus tard à profit l'expérience qu'il avait acquise en filmant la planète à l'anneau lors du tournage de sa propre production Silent Running. Personne n'aurait osé imaginer au milieu des années 60 que l'exploration des lunes de Jupiter deviendrait réalité, non pas au siècle prochain, mais seulement 15 ans plus tard. Et personne n'avait rêvé les merveilles qui y seraient découvertes. Bien que nous puissions être certains dès aujourd'hui que les découvertes des sondes jumelles Voyageurs seront un jour surpassées par des trouvailles plus surprenantes encore. Lorsque 2001 était en cours de rédaction, Io, Europa, Ganymède et Callisto n'étaient que des points lumineux, même dans le plus puissant des télescopes. Ce sont maintenant des mondes, chacun unique en son genre. Et l'un d'eux, Io, est le corps du système solaire qui connaît l'activité volcanique la plus intense. Cela étant, le film et le livre ont cependant assez bien résisté à l'impact de ces découvertes. Je n'ai envie d'apporter au texte aucune modification majeure, et il est fascinant de comparer les séquences du film consacré à Jupiter au film pris sur le vif par les caméras du voyageur. Il faut aussi se souvenir que 2001 fut écrit à une époque qui se situe en deçà d'une des grandes divisions de l'histoire humaine. Nous en sommes à jamais séparés par l'instant où Neil Armstrong posa le pied sur la Lune. Le 20 juillet 1969 se trouvait encore dans l'avenir, de la moitié d'une décennie, lorsque Stanley Kubrick et moi commençâmes à penser ce que pourrait être le bon film de science-fiction proverbial, l'expression lui appartient. Désormais, l'histoire et la fiction sont inextricablement liées. Les astronautes de la mission Apollo avaient déjà vu le film quand ils partirent pour la Lune. L'équipage de l'Apollo 8, qui pour Noël 1968 eut l'honneur de contempler pour la première fois la face cachée de la Lune, me raconta qu'ils avaient été tentés d'annoncer par radio la découverte d'un grand monolithe noir. Hélas, leur sens des responsabilités l'emporta. Et il y eut plus tard, de façon presque fantastique, des tentatives de la nature pour imiter l'art. La plus étonnante de toutes est relative à l'histoire d'Apollo 13 en 1970. Pour commencer, le module de commande, qui abrite l'équipage, avait été baptisé « Odyssée ». Juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène qui entraîna l'abandon de la mission, l'équipage écoutait le thème du Zarathoustra de Richard Strauss, qui est désormais universellement associé au film. Aussitôt après la baisse de tension électrique, Jack Swigert alerta par radio le contrôle. « Houston, nous avons un problème. » Les termes utilisés par Carl à l'adresse de Frank Poole dans une circonstance comparable avaient été « Excusez-moi d'interrompre ces réjouissances, mais nous avons un problème. » Lorsque le rapport sur la mission Apollo 13 fut publié, l'administrateur de la NASA, Tom Paine, m'en envoya un exemplaire et annota les paroles de Swigert. exactement comme vous l'aviez prévu, Arthur. Un autre écho est moins grave, mais non moins frappant. L'une des séquences du film techniquement les plus remarquables est celle dans laquelle l'astronaute Frank Poole court tout au long de la piste circulaire de la centrifugeuse géante, profitant de la gravité artificielle produite par sa rotation sur son axe. Presque 10 ans plus tard, l'équipage de la mission Skylab s'aperçut que ses concepteurs leur avaient fourni une configuration géométrique comparable. Un anneau de placard formait une bande circulaire régulière sur le pourtour de la face interne de la station. Skylab, assurément, ne tournait pas sur son axe, mais cela ne retint pas ses astucieux occupants. Ils découvrirent qu'ils pouvaient courir sur cette piste comme des souris dans une cage d'écureuil et produire un effet impossible à distinguer visuellement de celui montré dans 2001. Et ils expédièrent par télévision l'image vers la Terre. Faut-il que j'indique quelle était la musique d'accompagnement ? Avec ce commentaire, il faut montrer ça à Stanley Kubrick. Ce qui se produisit puisque je lui envoyais la bande vidéo. Je ne la revis jamais, Stanley utilise un trou noir sauvage comme système d'archives. Il y a aussi le cas étrange de l'œil de Jappet, décrit dans le chapitre 35, où Bowman aperçoit un ovale blanc brillant au contour si net qu'il semblait presque peint sur la face de la petite lune, avec un petit point noir au centre qui s'avère être le monolithe ou l'un de ses semblables. Eh bien, lorsque Voyager 1 prit les premières photos de Jappet, elles montrèrent sans doute possible un grand ovale blanc au contour précis, avec un petit point noir au centre. Carl Sagan m'envoya aussitôt un cliché en provenance du Jet Propulsion Laboratory, avec cette légende elliptique « Pensez à vous ». Je ne sais pas si j'ai été soulagé ou déçu que Voyager 2 n'ait pas réglé ce problème. Lorsqu'il y a 14 ans, j'ai tapé les derniers mots, il était maintenant maître du monde et il n'était pas très sûr de ce qu'il allait faire ensuite, mais il lui viendrait bien une idée. J'ai eu le sentiment d'avoir bouclé la boucle et écarté toute possibilité d'une suite. De fait, pendant la décennie suivante, j'ai trouvé ridicule l'idée d'une suite pour des raisons qui me semblaient définitives. Puisque le sujet de 2001 était la prochaine étape de l'évolution humaine, il aurait été aussi absurde de me demander, ou de le demander à Stanley Kubrick aussi bien, de la décrire que d'attendre de Guetteur de Lune qu'il décrive Bowman et son univers. Malgré mes réticences, il est maintenant évident que mon actif petit subconscient était au travail, réagissant peut-être au déluge permanent de lettres de lecteurs soucieux de savoir ce qui se passait ensuite. Finalement, et en considérant la chose comme un exercice intellectuel, je rédigeais un résumé d'une suite possible sous la forme d'un bref synopsis et en envoyais des exemplaires à Stanley Kubrick et à mon agent Scott Meredith. Pour ce qui est de Stanley, c'était un geste de pure courtoisie, car je sais qu'il ne se répète jamais, pas plus que je n'écris de suite à mes œuvres. Mais j'espérais que Scott vendrait le synopsis à la revue Omni, qui avait publié auparavant un autre synopsis, The Songs of Distant Earth. Ainsi, pensais-je pieusement, le fantôme de 2001 serait exorcisé. Stanley exprima un intérêt poli, mais Scott se montra enthousiaste et implacable. « Vous devez écrire le roman, dit-il. » Avec un soupir, j'admis qu'il avait raison. Du coup, cher lecteur, vous êtes à même de savoir ce qui s'est passé ensuite dans 2010 Space Odyssey 2. Je suis très reconnaissant à la New American Library de m'avoir permis de reprendre le chapitre 37 dans le texte du nouveau roman. Il sert de pont reliant les deux livres. Un dernier commentaire sur les deux romans tels qu'on peut les considérer d'un point situé exactement à mi-distance de l'année 2001 et du moment où Stanley Kubrick et moi décidâmes de travailler ensemble. Contrairement à une idée répandue, les écrivains de science-fiction essaient rarement de prédire le futur. La plupart du temps, comme le fit remarquer Ray Bradbury, ils tentent de l'empêcher de se produire. En 1964, la première époque héroïque de l'âge de l'espace commençait tout juste. Les États-Unis avaient pris la Lune pour cible, et une fois cette décision prise, la conquête des autres planètes semblait inéluctable. D'ici à 2001, il semblait tout à fait vraisemblable qu'il y aurait des stations de l'espace géantes en orbite autour de la Terre et, un peu plus tard, des expéditions humaines vers les autres planètes. Dans un monde idéal, cela aurait été possible. Le coup de la guerre du Vietnam aurait permis de réaliser tout ce que Stanley Kubrick a montré sur un écran de cinérama. Nous savons maintenant qu'il y faudra un peu plus de temps. 2001 ne se produira pas en 2001. Et pourtant, à moins d'accidents, à cette date, presque tout ce qui a été décrit dans le livre et dans le film aura atteint le stade de la préparation finale. Sauf pour ce qui est de la communication avec une intelligence étrangère. C'est là une chose qui ne pourra jamais être prévue, seulement anticipée. Personne ne sait si cela se produira demain ou dans un millénaire. Mais, un jour, cela arrivera. Arthur C. Clarke, Colombo, Sri Lanka, novembre 1982. Vous venez d'écouter 2001 l'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke, traduit de l'américain par Michel Demuth, lu par Mathieu Dahan. Une production d'Audible Studio.
Merci et à bientôt chez Audible.